franceinter.com. La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La Bastoche, ou encore la Bastille, mais côté rue de Lappe. Il est en effet à Paris des quartiers telluriques, dont la puissance est toujours en éveil, la nuit plus encore que le jour. C'est le cas de la Bastille, dont il faut peut-être chercher l'épicentre, non pas sur la place, mais au flanc de la place, rue de Lappe. Paris la tellurique a aussi le pouvoir d'irradier qui s'en réclame. L'invité de la marche de l'histoire est contaminé depuis l'enfance. C'est Claude Dubois. Bonjour Claude Dubois.
Bonjour Jean Lebrun.
L'enfance, vous la racontez, c'est un livre aux éditions Jean-Paul Rocher, rue Saint-Antoine. On peut citer Michelet. Vous
oui.
y avez poussé comme une herbe pâle.
Voilà, entre deux pavés. Voilà. C'est magnifique. Voilà. C'est Michelet, né en 1798.
Et puis, vous donnez aussi collection Tempus. C'est chez Perrin, une nouvelle édition d'un livre fameux, La Bastoche, qui est sous-titré
« Une histoire du Paris populaire et criminel ».
Qu'est-ce que c'est que cette association ?
Eh bien, c'est-à-dire que la rue de Lappe, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, a été pendant fort longtemps, et même toujours, c'est le miracle d'ailleurs, a été un lieu de plaisir. Et qui dit lieu de plaisir, eh bien dit forcément des ratés du plaisir.
D'accord.
Alors, le crime, n'est-ce pas ?
Donc, puis, association, elle est faite, vous citiez Michelet, par un autre de vos maîtres.
Louis Chevalier.
Dont c'est le centenaire qui publia naguère classe laborieuse et classe dangereuse. Alors, le Paris du peuple et du crime, nous allons l'explorer avec vous. Il baigne dans le fantastique social. Vous auriez bien aimé être le poète Macorlan qui utilisait cette expression. Il jouxte la chanson réaliste. Vous auriez bien aimé être Fréhel que vous imitez.
Moi, je connais, disait Fonfon, un coin où les affranchis vont. C'est à deux pas de la Bastille, un petit bal de famille. Il y a un fameux accordéon qui vous sort de ses variations. À faire pâmer les gigolettes, écoutez-moi ça si c'est chouette. C'est la valse des costauds, des beaux gosses aux gros biscottos qui tous les soirs en musette dansent avec leurs gigolettes. Et la valse des costauds, des beaux gosses aux gros biscottos qui tous les soirs en musette dansent avec leurs gigolettes.
Ben oui, c'est vous.
Ah, vous m'avez eu là.
C'est sur France Inter.
Oui, oui, c'est une émission il y a bien longtemps au tribunal de Claude Villers.
Ouais. Bon, on n'est pas Fréhel qui veut.
Oui, je crois que je suis un ton en dessus ou en dessous, j'en sais rien.
Peut-être au-dessus, vous bordurez, on va dire.
Je bordure, oui.
Du pari, du crime et du plaisir, vous en êtes sans en être.
Ben non, j'en suis pas, puisque je suis un observateur. Mais peut-être, alors justement, un jour, Joe Privat, il me disait,
dis donc,
Joe Privat, l'accordéoniste, me disait, oh toi Dubois, dis donc, t'aurais été là avant-guerre, t'en aurais retroussé avec les frangines, t'aimais trop ça, quoi. Ça voulait dire que j'aurais peut-être été barbeau. Je ne sais pas, j'aime pas tellement transgresser la loi, mais enfin.
Rue Saint-Antoine, votre naissance, et puis maintenant, votre vie tranquille. Vous n'êtes pas loin de la prison de la Petite Roquette, mais elle a disparu depuis. Vous n'êtes pas loin de la place Voltaire, ça s'appelle maintenant
Léon Blum.
Oui. Et puis vous n'êtes pas loin de la Bastille. Mais alors, il y a la Bastille illuminée,
oui.
Avec les cafés où chantait Bruant.
Mm-hmm.
Et puis ?
Et la Bastoche. Alors justement, dans ces deux chansons, La Bastille, le côté brillant, illuminé, c'est La Bastille, et le côté sombre, criminel, c'est La Bastoche, puisque le petit Henri Lafiloche, le copain à la méloche, termine sur la bascule à Charlot, quoi. Il y va de la tête, hein, il y va de la tête. Ça, c'est une expression que j'aime bien. Il y va de la tête, parce qu'il a été criminel. Alors, il y a une petite erreur. Il me semble que la bastoche, quand on dit la bastoche, est plus gaie quand même, hein, plus gaie que ça. Mais enfin, dans ces deux chansons, Bruant avait fait cette différenciation.
Bon, les auditeurs vont comprendre que nous n'utiliserons pas exclusivement le langage de l'Académie française aujourd'hui, et puis qu'on va entendre beaucoup de chansons jeunes d'archives ce vendredi. Abondance de chansons, mais la mémoire, disait Gaxotte.
Alors, la mémoire, oui, il disait qu'il se souvenait de cette rue de l'Abbe, des balmusettes de la rue de l'Abbe. Alors, un historien comme Gaxotte, qui pouvait avoir eu ces sensations en se retrouvant rue de l'Abbe, évidemment, je l'ai mis dès les premières lignes.
Hein, sensations sonores.
Sonores, oui, sonores.
La mémoire est sonore.
Voilà, et sonore, oui. Alors, ça signifiait l'importance qu'a eu cette rue de l'Abbe et dont, malheureusement, le souvenir est en train de s'éteindre un peu.
Alors, on entre par la grande porte. Aristide Bruant.
Il était né près du canal, par là, dans le quartier de l'Arsenal. Sa maman, qui n'avait pas de mari, l'appelait son petit Henri. Mais on l'appelait la filoche à la bastoche. Il faisait pas sa société, du génie de la liberté. Il était pas républicain, il était l'ami du rouquin. Et le petit homme à la méloche, à la bastoche. À cette époque-là, c'était le bon temps. La méloche avait 18 ans. Et la filoche était Rupin. Il allait des fois en sapin. Il avait du jonc dans sa poche, à la bastoche. Mais ça peut pas durer toujours. Après la saison des amours, c'est la mistouffe, et ben souvent, faut se les caler avec du vent. Il est la comète et la cloche, à la bastoche.
Alors on quitte la place, on replie les ailes du génie de la liberté, et on pénètre dans un quartier marqué par la rue de l'Appe, le passage Thierry, le passage Louis-Philippe, oui. Où sont les Auvergnats.
Oui, et ils y sont, enfin, ils y étaient depuis longtemps. La présence auvergnate est attestée dès Louis XV, qui leur avait permis de faire leur commerce du fer. Ils fondaient les métaux, ensuite ils étaient ferrailleurs, et ils avaient eu la permission et des exonérations fiscales de s'installer rue de l'Appe, aux confins du quartier du Bois, le faubourg Saint-Antoine, et du quartier du Fer, qui était la partie 3e arrondissement du Marais et qui avait traversé le faubourg, vous voyez, et qui allait vers le 11e. Donc, ils ont eu le droit de faire leur commerce. Donc, comme ces Auvergnats sont très jaloux de leur folklore, qu'ils aiment leur folklore, on a toujours dansé dans les arrière-boutiques ou je ne sais où, rue de l'Appe. Ils aiment la bourrée, ils aiment la montagnarde, ils aiment la crousarde. Alors, à l'époque, on dansait au son de la vielle et de la rauque cabrette, comme dit Sébastien Mercier, à la veille de la Révolution, hein. Mais sans citer la rue de l'Appe.
La cabrette, on l'entend encore dans cette archive assez récente, décembre 1963, donc on a bien compris que les industries des Auvergnats, enfin, ils préfèrent les ateliers à l'usine, c'est la chaudronnerie, la ferraille, le jambon que vous n'avez pas cité, et le bal.
Rien ici qui ne soit pas d'Auvergne, de l'enseigne au jambon, du Chanturgo client. Et cependant, nous sommes à Paris, à la galoche où la cabrette fait rêver tous ces exilés du pays natal. Ils sont 500 000 dans l'agglomération parisienne. 500 000 dont le fief le plus connu tourne autour de la Bastille. En général, l'Auvergnat d'hier était bougnat. Vins et charbon, c'était son blason. De 2500 avant la guerre, elles ne sont plus que la moitié, et chaque année, il en disparaît régulièrement une cinquantaine. Le bougnat disparaissant, l'Auvergne s'est reconvertie. On peut dire qu'aujourd'hui, elle monopolise à 98% les débits de tabac, 90% des cafés et des restaurants, et que ce soit le café de fleurs, la coupole, le pavillon dauphine, Chez Lip, vous atterrirez infailliblement à la terrasse d'un Auvergnat.
Les Auvergnats sont là parce qu'il y a les deux gares aussi à proximité.
Oui, ça a été un peu une légende.
Austerlitz.
Oui, on disait ils arrivaient à Austerlitz, donc ils allaient rue de Lap. C'est un peu une légende. La véritable, le point de départ, c'est ce que je disais tout à l'heure, Louis XV, quoi. Alors évidemment, après, les deux gares n'étaient pas très très loin, quoi.
Puisqu'on cite des grands noms, Louis XV, Bouscatel.
Oui, Bouscatel. Alors, Bouscatel, c'était le prince des cabretteirs. Alors, des joueurs de cabrette. Hein. Alors, il était venu, je ne sais pas, vers 1890 à Paris. Et il s'est installé vers 1900 au chalet, qui était un tout petit bal 13 rue de Lap, ou 15, parce qu'ensuite, il y a eu des agrandissements. Et on a appelé ce bal très vite chez Bouscat. Voilà, chez le père Bouscatel. Alors, pendant 20 ans, il y avait une lutte entre la cabrette et l'accordéon d'origine italienne, pardon, qui était arrivée après la commune. Et les patrons auvergnats voulaient pas, enfin, beaucoup, souvent, ne voulaient pas entendre parler de cet insinuant prostitué, l'insinuant prostitué des Fiferari. Voilà, voilà comment on appelait l'accordéon. Et puis, un jour, le père Bouscat, Tonin, il a accepté que Charles Péguri, l'aîné de la fratrie des Péguri, vienne jouer avec lui chez Bouscat. Et puis, il aurait été ravi, la scène est contée dans un livre qui n'a jamais été réédité, du Bouge au conservatoire de Louis Péguri. Du bouge au conservatoire, disait Bouscatel. Et alors, en écoutant ce Charles Péguri, il a été conquis, il a dit « Eh bien, maintenant, la cabrette est dépassée, c'est l'accordéon, etc. etc. » Mais il faut savoir, qu'il y a eu un autre mariage, celui de Charles Péguri et de Mademoiselle Bouscatel. Voilà.
Et puisqu'il faut parler de tous les maillons de la chaîne, Bouscatel, Péguri, puis un autre grand nom, Émile Vacher, qui témoigne du triomphe final de l'accordéon sur la cabrette, dans le lieu qui a résisté le plus longtemps, la rue de Lap, et qui est devenu, après, le Saint des Saints de l'accordéon. Si on nous dit « il y a trop d'accordéons », je réponds « Pierre Gaxotte expliquait que la mémoire est d'abord… »
Sonore.
Sonore. Ah, Émile Vacher, c'est un grand bonhomme. Vous l'avez même rencontré…
Ah non.
Vous l'avez rencontré par personne interposée, parce que vous avez connu un endroit chez Yvonne, chez tante Yvonne…
Ah oui.
Que vous avez fréquenté tout d'un, non ?
Non, je ne l'ai pas fréquenté parce que… Eh bien, chez tante Yvonne, ça se trouvait rue des Écouffes. Rue des Écouffes. Et c'était à l'époque une maison de rendez-vous. Et cette tante Yvonne était la tante de Jo Privat. Et alors, le grand Mimille était un habitué de cet endroit délicieux. Il y paumait un peu d'oseille. Et puis ensuite, eh bien, il faisait l'entraînante, il faisait la bourrasque. Hop, il allait mettre ça il avait des droits d'auteur, il allait déposer ça à la SACEM, vous voyez. Il faisait, pour se refaire, il faisait une chanson. Enfin, un air de musique plutôt. Enfin, bref, le môme Joe, à l'époque, il avait 12-13 ans. Et puis, commençait à tâter du soufflet à douleur. Alors, Yvonne, qui était une blonde platinée, avait dit « Ah, monsieur Émile, monsieur Mimille, mon neveu, vous savez, il aime jouer, etc. » Alors, Mimille avait dit « il a qu'à venir. » Il a qu'à venir, puis on verra ce qu'il sait faire. Alors, Jo racontait qu'un jour, il s'est pointé là-bas dans le quartier Saint-Paul, la rue des Écouffes. Il était un petit peu, parce que c'était un grand nom quand même, Mimille. Et alors, Mimille lui dit, fais voir le môme, là, comme ça, fais voir le môme ce que tu sais faire. Alors, Jo a joué, je ne sais plus quoi, Auteuil-Longchamp, peut-être, une composition de Vacher. Et Vacher lui dit, oh, c'est bien le môme, dis donc, t'as la cadence. Avoir la cadence, ça voulait dire bien jouer dans l'optique du bal musette, vous voyez, pas trop vite, voilà. Et alors, il lui a proposé de jouer avec lui.
Chez Tante Yvonne.
Non, en dehors, non, ah, non bon. Quand il passait en attraction. Lui, je crois que Joe a été récompensé peut-être un ou deux années plus tard, effectivement, par Tante Yvonne, par une de ses pensionnaires. Je crois que ça s'était passé là, la première fois, pour Joe Privat.
Donc, le plus costaud de la Bastille, c'est Totor, et le plus généreux, c'était Mimille. Mais il y avait une maison de rendez-vous rue de Lappe. Alors, justement, rue de Lappe, au moment où l'accordéon joue des coudes pour se faire une place. Il y a aussi les mauvais garçons qui arrivent là. On est à la Belle Époque.
Oui.
Les mauvais garçons qu'on va identifier
comme Apaches. On va les appeler les Apaches. Alors, l'histoire...
Mais alors, faut-il qu'on aime les récits de la conquête de l'Ouest américain pour faire des Apaches des prairies, des Apaches des faubourgs.
Bien sûr. Et même plus avant, il y avait eu l'œuvre de Fenimore Cooper, hein, le dernier des Mohicans. Et déjà, je crois que c'est 1830, Dumas avait écrit « Les Mohicans de Paris ». Donc, c'est-à-dire que ça désignait les gens du peuple, du bas-peuple, comme disaient certains, la populace même, ce qu'on appelait autrefois Balzac, Hugo, les sauvages. Un jour, un ministre a dit les sauvageons, mais l'appellation date depuis longtemps. Alors, évidemment, cette histoire de la conquête américaine, eh bien, traversait la mare aux harengs, hein, c'est-à-dire l'océan, et on était au courant de ce qui se passait là-bas. Et alors, il s'est trouvé, je crois que la dernière guerre des Peaux-Rouges menée contre l'armée américaine, ou le contraire plutôt, ça a été celle des Apaches, qui étaient des crues. Des durs, quoi. Et alors, à l'époque, un petit peu donc avant Casque d'Or, qui va résumer tout cela, eh bien, il y a une bande qui s'est appelée les Apaches, mais il y en avait d'autres qui s'appelaient les Cœurs d'Acier, une autre les Aristos, et il s'est trouvé qu'avec cette affaire Casque d'Or, eh bien, le mot a pris son essor, quoi.
Casque d'Or, années 90, début des années 1900, Amélie Elie a rencontré quelques-uns de ses amants dans le 11e arrondissement de Paris, et puis elle est devenue célèbre à Belleville, sous le nom de Casque d'Or, 50 ans après les faits, le film de Jacques Becker.
Bonjour mesdames.
Là, c'est messieurs maintenant.
Chut, tais-toi donc, tu vas nous attirer des histoires.
Je vous amène mon pote, il s'appelle Georges. Jour pour les dames. Tiens, je te présente. Ponsard la migraine. Suivez. C'est Roland Bellegueule. Guillaume le dénicheur, Fredo mes bottes, le petit Billy,
c'est moi,
et nos dames.
Qu'est-ce qu'il fait ton pote?
Les charpentiers.
Monsieur travaille.
Ils savent danser les charpentiers.
Le rendez-vous des purs, des vrais, des plus chouettes. Et à la Bastille, tout près de la Roquette, il y a la réunie, plusieurs balles musettes, où tous les rupins, les gens du gratin, viennent voir les coquins. Dans la rue de Lappe, quand le soir s'enfuit, des couples s'avancent, tout en saloupant, vont dans la nuit, si quand une danse. Entre musette, faire un petit pas, la valse des frappes, tenant dans leurs bras jusqu'au petit jour, une seule môme d'amour, dans la rue de l'Ave.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Claude Dubois qui donne une nouvelle édition, Tempus Perrin, de La Bastoche. Ça, c'est la vraie Fréhel. Tout à l'heure, on vous a entendu imitant Fréhel.
Ça me fait frissonner. Hein.
La rue de Lappe.
Hein, le pouvoir frappes. Des sensations de cette rue, de cette mémoire sonore, mais de la nuit aussi. Moi, je frissonne, là, je suis ému d'entendre Fréhel. J'adore Fréhel.
Vous frissonnez, mais au fond, est-ce que vous n'êtes pas attiré par le mystère du fait divers? Je ne sais pas si dans la réalité de la rue de Lappe était aussi dangereuse que sa réputation ne le disait.
Alors ça, c'est intéressant, justement, de voir, et je m'y suis essayé dans ce bouquin, de voir la réalité et ce que les journalistes, que la légende a fait de la réalité. Il semblerait... Bon, il y a eu des bagarres, hein, rue de Lappe, il y a eu des coups de couteau. Mais moi, je cherchais parfois des crimes afférents au bal Musette. Et j'en ai trouvé très peu, et j'étais presque un peu déçu. Il y avait sûrement beaucoup plus de crimes de sang à Montmartre, vous voyez. Mais le fait divers, je l'ai connu tout temps, puisque chez moi, il n'y avait pas de livre. Mais mon père lisait Le Parisien libéré, et puis, on parlait de Jean-Paul Brouchon tout à l'heure, But et Club, le miroir des sports. Alors j'ai été élevé par la lecture du Parisien et du truc des sports. Alors je voyais parce qu'à l'époque, Pigalle, Deux morts, La nuit dernière, ou alors je voyais aussi souvent Rue Amelot. Alors, dans les années 50, je suppose que rue Amelot, il devait y avoir des bars de voyous.
Ouais, hein.
Eh bien, la rue Amelot, c'est de l'autre côté du boulevard Beaumarchais, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est la Bastille. Hein. Et d'ailleurs, c'est là que rue Amelot, que Henri Miller, en 1933-34, il montait au bonheur avec la môme Germaine. Hein. Bon, voilà. Alors, le fait divers, il s'est trouvé que je me souviens de faits divers, l'affaire Rapin, Bill Rapin. Bon, c'était pas la Bastille. Et plus tard, lorsque j'ai été ami avec Alphonse Boudard, il me racontait ces faits divers que je n'avais évidemment que survolé quand j'avais 7-8 ans. Mais je voyais des choses. Et alors, le fait divers est intéressant parce que c'est un dérapage du plaisir. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais le fait divers est partout. Regardez tous les films. Ce sont basés sur des faits divers. Et on n'étudie pas assez le fait divers.
Ah bah si, au Collège de France, naguère, votre maître, Louis Chevalier, avait consacré un cours entier
qui
vient d'être édité chez Tempus, Perrin, Splendeur et Misère du fait divers. Et l'historien qui l'était disait le plaisir qu'il avait de pouvoir rivaliser un moment avec le romancier dans l'entrée dans le mystère et puis... Il y a un moment après où il faut s'arrêter parce que les faits sont têtus.
Il m'avait dit justement, quand il avait écrit Montmartre du plaisir et du crime, que quelquefois, ces faits divers, il se serait volontiers laissé emporter par la plume pour passer au roman. Quoi, hein, voilà.
Rue de Lappe, au 9, avançant dans le temps.
Oui.
En 1934, est assassinée une prostituée qu'on retrouve ligotée.
Oui, au deuxième étage. Dans l'immeuble du Balageau aujourd'hui, qui était un hôtel qui s'appelait Véronique Leclan.
D'ailleurs, il y a aussi des hommes qui vendent leurs services sexuels. Et je crois que dans cette affaire, un homme a été soupçonné.
Oui, oui. Alors c'est une. Ouais, enfin, c'est pas drôle. Elle est morte. On n'a jamais su l'assassin. Mais il y a eu un type qui a été soupçonné. Et alors, il s'en est tiré de la façon suivante. La rue de Lappe, donc, avec ses voyous, ses escarpes, etc., il y avait des gens de la haute, des couples, qui quelquefois, venaient, des couples, et là, en l'occurrence, c'était un professeur de médecine et sa dame, qui étaient venus, et ils avaient trouvé ce jeune homme qui a été soupçonné, et comme il disait, il lui avait demandé de donner quelques soins à la femme.
Quelques services.
Quelques services.
Mais ça faisait un alibi.
Voilà. Et alors, lui, heureusement, il n'était pas très content, le gars. Il trouvait qu'il n'avait pas touché assez d'oseille, mais il avait relevé le numéro de je ne sais pas où il était allé. Et effectivement, le professeur de médecine a confirmé qu'il était bien là à l'heure du crime.
La naissance du Balageau. Tiens, à ce crime, elle a lieu, c'est le 75e anniversaire en 2011, en 35 et de nouveau en 1936. Et c'est là qu'on voit réapparaître Jo Privat. De temps en temps, d'ailleurs, il y a des dames de Neuilly qui lui demandaient aussi des services sexuels.
Ah oui, à sa grande époque, oui.
Oui, parce que la sueur du travailleur ou la sueur
bien
du
sûr,
voyou
oui.
ou celle de l'accordéoniste, c'est quand même extrêmement plaisant.
Les Apaches, les truands, comme on dit au bal Musette, ils respectaient toujours les musiciens. Comme en Amérique, aussi bien Al Capone, tous ces gars-là, ils aimaient bien le jazzman. Nous, la musique, on faisait toujours bon ménage avec les gangsters ou les truands, si vous voulez. On avait une clientèle au Valajon, on a eu tous les notables de la truanderie. Quoi. Je parle de Joatia, Bouche Sèche, si toutefois c'est une référence. On m'a dit une fois, un jour vous faites une gloire d'avoir connu ces gens-là. C'est pas que je m'en fais une gloire. Enfin, c'est quand même intéressant d'avoir connu des gens comme ça. Quoi.
Alors c'était leur scène, c'était leur endroit, l'endroit
où ils sont. Oui, ils venaient, vous savez bien, ils ne fréquentaient pas les salons de thé aux Champs-Élysées quand même. Hein. Heureusement, parce que la police, si elle recherche des truands, elle va pas venir chez Maxime les trouver. Ou alors ils sont trop grands, elle ne peut pas les approcher, ils en font partie. En fait.
Maxime, c'est à vendre par Pierre Cardin, le Balajo. Résiste, le morceau s'appelle Balajo. Mais,
Balajo, oui.
Mais Balajo, c'est pas seulement Jo Privat, il y a d'autres Jo.
Oui, alors il y avait, il y a eu plusieurs Jo. Alors,
Balajo,
c'est Balajo France, Georges ouais. France, hein, ouais. Qui a été donc le créateur du Balajo en 35, après le meurtre de Véronique Leclan, le vieux Vernet là, qui tenait le bal d'avant. Il a eu les chocottes et puis il lui a vendu le... Bon,
et voilà. Jo l'Allemand.
Alors Jo l'Allemand, c'était un des directeurs du Balajo. Je ne l'ai pas connu, lui. Mais il y avait Jo l'Allemand et il y avait Jo Privat. Et donc, ce n'était pas... ça devrait s'écrire G-E-O. Hein. Des fois, Henri Mahé, dans La Brinque-Balle avec Céline, l'écrit G-E-O, Jo. Et parce que ce n'est pas Joseph, hein, c'est Georges Privat. Hein. Mais ça, on ne le sait jamais, quoi. Alors, Privat, ça a été un très, très grand ami. D'ailleurs, là, encore un coup, je suis ému en entendant sa voix pleine de rustine, là, comme il disait. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est amusé tous les
deux. Ça résiste, le Balajo.
Oui, alors le Balajo résiste.
Alors que l'Opéra Bastille s'est installé, vous dites la culture avec un grand C,
un grand C
est arrivée. Et où est passée la civilisation, dirait Louis Chevalier?
Bah, je sais pas, on est en train de la rechercher avec une loupe. Hein. Non, mais...
La civilisation, c'est la culture populaire?
Civilisation populaire. Parce que Louis Chevalier, j'avais fait un long papier dans Le Monde, il n'aimait pas ce mot culture. Il disait que la culture, alors c'était assez compliqué, était un détail de l'esprit et que le mot culture était un mot d'un peu d'essence allemande, puisqu'on parle de culturalisme allemand pour expliquer les faits de société. Et lui, il préférait à dire la culture parisienne, ou comme je disais, la culture populaire parisienne, lui, il préférait dire la civilisation parisienne, qui est un terme plus vaste et qui englobe tout, le fait divers, l'esprit,
la chanson de rue, et la chanson d'opéra,
voilà,
tout à la fois.
Bien entendu.
On va terminer en vous remerciant pour cette nouvelle édition de La Pastoche, Tempus Perrin, pour votre livre Rue Saint-Antoine, aux éditions Jean-Paul Rocher, avec Francis Lemarque. Il est né rue de Lappe.
Rue de Lappe au 51,
en 1917.
Oui.
Et puis dans les années 20, il entendait les chanteurs de rue dans les cours et au tambour. Au départ, sur la place de la Bastille, bien avant l'Opéra Bastille, il y avait des chanteurs de terrasse qui interprétaient des airs d'opéra.
Et il y va de la tête, hein, il y va de la tête.
Rue de Lappe, rue de Lappe, au temps joyeux, où les frappes étaient chez eux. Rue de Lappe, rue de Lappe, en ce temps-là, à petits pas on dansait la java. Les jupes portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés, avec de belles rouflaquettes qui descendaient jusqu'au nez. Rue de Lappe, rue de Lappe, c'était charmant. Rue de Lappe, rue de Lappe, mais plus prudent. Rue de Lappe, pour les enfants, de les emmener ce soir-là au ciné, plutôt que d'aller se faire assassiner. Passez la monnaie, et ça tournait. Et plus ça tournait, et plus ça tournait, plus ça coûtait. Qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait, quelques tickets. Mais on ne les payait presque jamais.
C'est pas seulement un spécial dédicace à Jacques Sigal qui aime beaucoup Francis Lemarque, c'est un personnage important lui aussi.
Oui, oui, bah je l'avais un petit peu connu. Il était donc né au 51 rue de Lappe. Et dans l'autre livre, la rue Saint-Antoine, je montre qu'il allait travailler dans une rue, là, dans une petite métallurgie, et où on disait petit youpin, parce que Francis Lemarque, c'est lui qui le dit, s'appelait Nathan Corbe. Hein. Et dans sa jeunesse, il a été assez vite politisé. Hein. Il fréquentait plutôt le groupe Octobre, vous voyez. Et c'est plus tard qu'il est revenu à cette rue de Lappe. Hein. Jo Priva, qui quelquefois était mauvaise langue, c'est là où il était marié, dit « Le Marc, on ne le connaissait pas avant-guerre, dans les bistrots. » Et puis après, évidemment, il se faisait la bise, quoi. Mais Le Marc était très sympathique, très agréable.
Merci à vous, Claude Dubois. Yann Bouillot à la technique, Jacques Sigal à la réalisation, Camille Poux-Jalaguier, Franck Olivard et Frédéric Martin pour la préparation de l'émission.
Merci à Jean Lebrun, toute son équipe et leur invité, le journaliste et écrivain Claude Dubois. C'était la marche de l'histoire consacrée aujourd'hui à la Bastoche et au bal populaire à Paris. Une émission dont vous retrouverez tous les détails sur le www.franceinter.com.